Le lundi 15 avril, ici Karl Marchand. Voici les nouvelles. Bonjour, mesdames et messieurs. La consommation de psychostimulants pour traiter le TDAH chez les jeunes Québécois repart à la hausse. Dans un récent rapport, le docteur en neurosciences Joël Monzé indique que la consommation de psychotropes chez les jeunes, de façon plus générale, a grimpé en flèche depuis une vingtaine d'années. L'expert estime qu'il est urgent de redéfinir les directives entourant le TDAH. Avant de prescrire des médicaments, il faut d'abord se demander si d'autres facteurs pourraient exprimer ces symptômes, expliquer ces symptômes comme l'anxiété, l'usage abusif des écrans ou encore le manque de sommeil, selon Joël Monzé.
Beaucoup de jeunes qui sont anxieux vont avoir éventuellement des symptômes qui s'apparentent au TDAH, mais ce n'est pas un TDAH. Les jeunes qui sont continuellement sur les écrans vont avoir aussi, quand ils sont en perte de dopamine au moment où ils arrêtent leur stimulation virtuelle, numérique, eh bien, ça peut donner des comportements soit d'inattention, soit d'hyperactivité ou d'impulsivité.
Une clause relative à la mobilité de la main-d'œuvre est en grande partie responsable du rejet de l'entente de principe conclue entre la Fédération interprofessionnelle de la santé et le gouvernement. Les infirmières demandaient un plus grand respect de leurs compétences et ont rejeté leur entente samedi. C'est ce qu'a expliqué sur nos ondes ce matin Julie Bouchard, présidente de la FIC.
Nous, ce qu'on s'est entendu avec l'employeur, c'était de dire sur les centres d'activité. Donc, je peux jumeler un département de médecine avec un département de chirurgie, par contre, et que ce soit un poste comme ça qui soit offert. Et c'est là où les membres nous disent non. On veut avoir un respect de notre expérience.
La crise des opioïdes continue de sévir au Canada alors que le nombre de décès accidentels par surdose est en hausse. En 2021, le quart des décès survenus chez les adultes dans la vingtaine et la trentaine au pays ont été causés par des opioïdes, selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui dans le journal de l'Association médicale canadienne. Les précisions de Mathieu Paquette.
Selon des chercheurs de l'Université de Toronto, le nombre de décès attribuables aux opioïdes a plus que doublé en 2 ans au Canada, passant d'environ 3 000 en 2019 à plus de 6 200 en 2021. Les auteurs de l'étude ont relevé des augmentations majeures chez les trentenaires dans les prairies, alors que le nombre de décès liés à des surdoses a quintuplé au Manitoba, a presque triplé en Saskatchewan et a plus que doublé en Alberta. Au Québec, 161 décès étaient attribuables aux opioïdes en 2019, mais ce nombre est passé à 369 en 2021. Selon l'autrice principale de la recherche, Tara Gomez, cette forte augmentation du nombre de surdoses accidentelles démontre que les provinces doivent agir plus rapidement pour lutter contre la crise des opioïdes. Ici Mathieu Paquette, de la presse canadienne.
Le milliardaire canadien Robert Miller, dénoncé par plusieurs femmes pour avoir eu à sa disposition un réseau de prostitution juvénile, était déjà visé par les autorités en 2009. Des détectives privés embauchés par l'ex-épouse du milliardaire ont noté à cette époque les allées et venues de nombreuses jeunes femmes qui se rendaient chez Robert Miller, dont certaines étaient contrôlées par des gangs de rue. Ils ont fait part de leurs observations à la police qui a déclenché une enquête. Le dossier s'est rendu jusque sur le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales en 2010. Le DPCP a cependant jugé la preuve insuffisante pour déposer des accusations, comme l'indique le journaliste d'enquête à la presse Vincent Larouche.
Il semble nous indiquer qu'il y a un élément qui est survenu après qu'on ait avancé la preuve qui leur faisait dire « on n'a pas de chance, c'est garanti qu'on perd. Et si on pense pas qu'on peut gagner, il faut pas commencer. » Maintenant, ils insistent beaucoup pour nous dire « il y a des nouvelles informations qui sont rentrées depuis un an ». Le dossier est très actif et c'est possible qu'on révise notre décision.
Et c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Donald Trump à New York avec le choix du jury qui devrait s'étendre sur plusieurs semaines. Il devient le premier ancien président américain à faire face à la justice pénale. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Donc, qui devrait se dégager au cours des prochaines heures. C'est ce qu'Environnement Canada nous prévoit pour aujourd'hui, maximum à 10 degrés. On parlait d'averse ce matin, mais il est tombé quelques gouttes de pluie, donc dernièrement. On parle aussi de 2 degrés pour la nuit prochaine et de 6 pour demain avec des nuages.
93, c'est fixe. Avec Jean-Claude Chilina.
C'est les petites vite. Au Loup de Trois-Rivières, bonjour. Céline, comment puis-je vous aider?
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien?
Oui. Hey, écoute, je pose la question. Je sais bien que l'éclipse solaire est passée, là, hein?
Oui. Oui,
ben, c'est ça, je l'ai manqué. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez ça, des lunettes pour les éclipses?
Non, nous, on n'en a pas ici.
Ah, sais-tu pourquoi? Parce que j'en ai besoin drette là.
OK.
Parce que Justin Trudeau est à TV présentement, puis tout d'un coup, qu'il soit brillant, je veux me protéger.
OK.
Bon, écoute donc, je te laisse, OK? Parce que ma femme me fait signe que c'est le temps de lâcher le téléphone. OK!
Merci beaucoup et bonne journée.
Bye-bye.
Lynn Nagel 5, en fait, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ah, si c'est pas mon préféré.
Mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Je sais que l'éclipse est passée, mais est-ce qu'il vous reste encore des lunettes pour les éclipses?
Malheureusement, non.
OK, ben je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que moi et ma femme Ginette, on aimerait ça s'asseoir devant la vitre du fourneau de façon sécuritaire et sereine pour voir cuire le roast beef. Fait quoi, on met des lunettes d'éclipse dans ce temps-là. C'est parce qu'on on veut pas perdre la vue. Tu comprends? Ben, Dieu, j'ai de la misère à expliquer mon affaire. C'est parce qu'on s'en sert aussi pour garder la petite lumière quand on ouvre la porte du frigidaire. Ben oui, ben ils disent de se protéger les yeux. Ben, c'est pas ça. On veut pas perdre la vue. Déjà qu'on a perdu notre chat, si en plus on le voit plus, il n'y a pas grand chance de le retrouver. Fait que, il n'y a pas moyen d'avoir des éclipses, pas des éclipses, d'avoir des lunettes. Il n'y en a plus.
Malheureusement, je suis désolée.
Bon.
Ça a parti comme des petits pains chauds.
Ben, j'ai l'impression que oui. Et vous profitez de ça, vous, de regarder l'éclipse?
Ben, certainement.
Ouais, mais j'ai plus le temps de parler. Bon, ben, je vous laisse. Je laisse là-dessus parce que... Ben ouais, ils disent que la prochaine éclipse totale va avoir lieu dans 80 ans, fait que je vais aller sortir les chaises de par terre.
Vous faites ma journée aujourd'hui.
OK, bye-bye.
Bonne journée.
Bye-bye.
Au revoir.
Le menu du midi, du lundi au vendredi dès midi. En direct du studio McDonald's. CFIX FM 93.
Rimouski à CFIX FM 93. La référence en information.
Bon, ben, premier sujet ce matin, le Conseil national du Parti québécois. On a parlé de souveraineté. Les militants sont contents. Les sondages sont bons. Alors, quoi demander de plus?
Ben oui, gros week-end pour les péquistes à Drummondville. Écoute, autant le chef que, tu l'as dit, les 500 militants qui étaient présents, très, très, très heureux. On s'entend, il y a de quoi être de bonne humeur, là, tu sais. Tu as des sondages qui sont plus qu'en ballant, autant pour le parti que pour le chef lui-même, sa popularité. Tu as des projections qui indiquent que ton gouvernement, que probablement tu serais probablement au gouvernement et tu serais confortablement majoritaire, les coffres débordent. Écoute, l'argent est tellement au rendez-vous pour le Parti québécois, ce qui est le nerf de la guerre, évidemment, pour organiser la prochaine élection. Juste pour te donner une idée, à date, en 2024, le PQ a ramassé en financement populaire 242 000 $. C'est plus que la somme des quatre autres partis qui, eux, ont avancé 226 000 à eux quatre. Tu me diras, la CAQ a arrêté son financement, on s'en souvient, mais il reste que c'est incroyable à quel point le PQ réussit à lever du financement. Puis j'ajouterais même un autre élément pour faire le portrait là, que tout semble bien aller. Beaucoup de jeunes au Conseil national, en fin de semaine, on disait 40 % des délégués qui étaient des jeunes. On a eu l'impression pendant quelques années que ça devenait très, très, très vieillissant, le Parti québécois. C'est bien, on voit que ça se rajeunit, ça se renouvelle. Donc, on peut pas dire que ça va bien, ça va très, très bien. Il y a de quoi être sur un nuage et peut-être même perdre un peu le contact avec la réalité. Puis mon but, c'est pas d'être rabat-joie.
Non.
Mais c'était un peu particulier ce à quoi on a assisté hier dans le grand discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, sur la forme en passant, je trouve qu'il s'améliore. Je me souviens encore de son premier discours lorsqu'il a été nommé chef. Je trouvais que c'était un peu difficile, très saccadé, nerveux. Il s'améliore, mais pas encore un grand tribun. Reste que la foule appréciait son discours. Mais au niveau du contenu, je veux bien comprendre que Paul Saint-Pierre Plamondon veut galvaniser ses troupes, qu'il, lui, il croit dur comme fer le référendum, il est déterminé, il veut foncer. Mais il reste que c'est un contexte où t'es pas juste enfermé dans ta chambre d'écho avec les gens qui pensent exactement comme toi. T'as les Québécois au grand complet qui t'observent. Puis il me semble que tu dois être un tant soit peu équilibré, nuancé dans ton propos. Et c'est là où on a vu hier, je trouve, de l'enflure. de l'exagération. J'avais même l'impression d'être un peu dans une réalité alternative. J'insiste sur deux éléments. Premièrement, sur l'attitude du fédéral. Soyons clairs, c'est pas beau ce qui a été fait dans les deux, trois dernières semaines, là. La pluie de milliards de dollars alors qu'on est déjà endetté jusqu'au cou, à deux pieds dans les champs de compétences des provinces. On sent pas qu'il y a un grand respect envers les provinces. Mais pourquoi Justin Trudeau fait ça? Parce qu'il veut sauver sa peau. Il est désespéré, il veut utiliser des leviers qui parlent aux gens, le logement, l'habitation, les médicaments, le dentiste. Il veut juste survivre. Mais écoutez, Paul Saint-Pierre Plamondon, Justin Trudeau veut, et là je vais employer des mots qui ont été utilisés hier, là, coloniser, assimiler. Il a dit, on assiste à une action concertée pour nous affaiblir, pour nous effacer. Même, c'est ce qu'il a dit, l'heure était grave, parle d'une chance de chance ultime, sinon on va disparaître. Je trouve que c'est très, 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 très gros. Les images, les termes, la façon d'analyser ce qui se passe au fédéral, j'ai trouvé qu'il a poussé trop loin hier.
Mais tu sais, ça a le mérite d'être clair, par exemple. Parce que, oui, tu sais, il n'y a pas de surprise. Pour l'élection qui vient, le choix est le suivant. Voulez-vous voter pour un changement de gouvernement ou maintenir la CAQ? Deuxièmement, si vous voulez changer de gouvernement, qui vous voyez comme premier ministre? Qui vous voyez comme parti? Puis c'est le Parti québécois en date d'aujourd'hui. Et ce parti-là et son chef dit aux Québécois, si vous votez pour nous, on ne fait pas de mystère. Il y aura un référendum sur la souveraineté. Et si on le perd, ce sera le dernier. Donc, il y a... Tu sais, après ça, on peut discuter, là. J'aime mieux ça que... On verra, on va s'ajuster, tu sais, puis non, c'est ça.
Mais je suis d'accord avec toi. Puis ça, on lui a toujours donné, et on doit lui donner, ceux qui pensaient que les perspectives d'être élu feraient en sorte que finalement, oups, on mettrait plus de l'avant. Bon, ouais. Ben, c'est ça, le bon gouvernement, on sait à quoi s'attendre. Comme on dit en anglais, what you see is what you get. Par contre, la teneur du discours, je te parlais du fédéral, mais même sur la certitude, il a dit qu'il avait parlé de certitude que les Québécois seraient en référendum avant la fin de la décennie. Donc, avant la fin d'un éventuel premier mandat, évidemment, ça a été vu par ses opposants politiques comme un peu comme s'il était présomptueux, là, qu'il prenait pour acquis, qu'il sera élu, que ce soit un gouvernement majoritaire. Tu sais, c'est juste que, oui, on le sait, l'objectif est clair, mais Paul Saint-Pierre Plamondon nous parlait hier comme si la souveraineté était à 45, 46, 47 %. À ce que je sache, on est encore à 35 %. Il reste du travail à faire.
Non, mais ça, c'est sûr, mais garde, t'as un gouvernement... comme on dit, une coalition, là, Avenir Québec, qui dit les Québécois veulent rien savoir de ça, nous autres, on va négocier avec le fédéral, puis on va obtenir des gains. M. Legault a beaucoup de preuves à faire. Si, t'sais, pis l'échéance de la fin juin sur l'immigration, c'est pas rien, là. Puis quand t'es rendu à dire que je vais faire un référendum sectoriel sur la question, je pense pas que ça va arriver, là, mais quand même. Et là, t'es le Parti québécois qui était agonisant aux dernières élections, tu regardes, tu dis, lui, il est pas capable d'aller chercher les ententes. Les fédéralistes, on a vu ce que ça a donné, puis Trudeau vient à pieds joints dans nos juridictions. Avoue qu'il a quand même un contexte pas mal.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que moi, je crois beaucoup en politique, l'anglicisme, mais au build-up. Là, tu dois avoir comme une progression. Et le discours, d'ailleurs, ressemblait un peu à un discours de la veille du lancement d'une campagne référendaire. J'aurais juste slacké un quart de tour. La définition du fédéral. Écoute, lorsqu'on parle là, de coloniser, d'assimiler, de nous effacer, tout ça... C'est pas la lecture que j'ai. Bref, du reste, il reste que sa stratégie, elle est très, très claire. Et ceux qui s'ennuyaient de la souveraineté, ben ils vont être contents. Ceux qui étaient contents qu'on n'en parle plus vont être déçus parce que, clairement, le paysage politique, ce qu'on voit, le contexte qui est en train de se dessiner, c'est que dans les prochains mois, on va énormément, énormément parler de souveraineté.
En tout cas, si tu votes pour le PQ, que les gens de Québec votent pour le PQ, vous n'aurez pas de troisième lien.
Mais là, je sais plus. Chars.
Oui, oui, oui.
Je sais plus, Paul.
Un lien collectif, pas de char individuel.
Ben là, Pascal Paradis, lui, le député de Jean Talon, était dit, non, il n'y aura pas d'aspect autoroutier. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit, non, si vous avez pensé que j'ai évoqué, peut-être que vous vous êtes trompé, j'en veux pas, mais on va voir ce que la Caisse de dépôt infra va nous dire. Écoute, j'ai quand même l'impression qu'il souffle un peu le chaud et le froid, mais si j'ai dit qu'on va parler de souveraineté dans les prochains mois, je t'annonce qu'à Québec, on va continuer à parler de troisième lien aussi dans les prochaines années.
Bon, la FIC a rejeté l'entente de principe avec le gouvernement.
Oui, et le résultat est très clair. Hein? 61%, il y a eu un bon taux de participation, 66 000 des 80 000 membres qui ont voté. C'est très surprenant. Surprenant et décevant. J'ai l'impression que personne n'avait vu ça venir. Surtout que la présidente Julie Bouchard semblait assumer son entente. Elle semblait en être satisfaite. Et il y a deux, trois semaines, les délégués syndicaux